Salut Marc, salut Smart, et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Je suis Pat Karma, et aujourd'hui, on va parler de Lucha Underground, parce qu'il n'y a pas que la WWE dans la vie. Vous avez fait une overdose de WWE la semaine dernière. On va passer à un truc plus léger, un peu différent, pour se relaxer. Avec moi, le spécialiste Lucha de l'émission, Crix. Salut Crix.
Salut Pat Karma, salut IRM, salut les Catch Uppers, salut les Catch Uppers.
Et IRM également, qui va s'occuper majoritairement de la technique, mais qui n'est pour intervenir aussi quand il aura un point qui lui paraît intéressant à soulever.
C'est voilà. Ça, je jouerai le naïf, le candide, salut les gars.
Alors, pour répondre à FG dans le chat, oui, je suis désolé, mon son est merdique parce que mon ordinateur est en train de rendre l'âme, et je vais devoir faire avec les moyens du bord, désolé. C'est la marque de fabrique Lucha Underground. On n'a pas les gros moyens de Vince McMahon. On est dans des endroits un peu différents. On fait ce qu'on peut.
On est des indépendants, alors. Monsieur. On est dans la vie. On est des gueux.
On est des gueux. Alors, justement, je parlais de moyens de Vince McMahon et de faire les choses un peu différemment. La Lucha Underground, elle fait tout différemment. Dans la mesure où vos matchs de catch, ils vont être truppés, segments, ils sont plus télé, enfin vraie série télé, un peu telenovelas parfois. Bref, c'est complètement alambiqué. Tout ce que vous voyez pas parfois à la WWE, et ben là, ils vont pas hésiter à vous le faire en post-prod. Les éclairs, les réflexions, un peu bien. Jusque là. Pas de problème. La télénovela, mais bien sûr, la Lucha Underground, bien évidemment, va vous des matchs qu'il y en a eu pendant les 4 saisons. Et oui, c'est déjà la 4e saison. On approche de la fin de la 4e saison. Il reste un gros événement, celui qui traditionnellement clôture l'année à la Lucha Underground, qui va amener le temple, l'endroit où se passent tous les combats. Tout se passe là-bas, ce qui est un entrepôt dans la banlieue de Los Angeles. Va fermer ses portes pendant quelques temps, le temps de tourner la prochaine saison. S'il y a une prochaine saison, parce que c'est toujours un peu la grosse inconnue avec Lucha Underground. Il y a des moments où on sait pas trop si ça va continuer. Il y a un petit budget.
Ce qui les empêche pas de signer souvent, chaque année, ils ont eu des ex-WWE, dont on sait que tout de suite, les émoluments sont un petit peu plus élevés.
C'est ça.
Mais dans les 4 saisons, systématiquement, il y a eu des gros noms. Il y a du catch comme les aiment les fans de la WWE, en fait. Hein, faut pas se leurrer, quoi. Quand tu retrouves John Morrison, quand tu retrouves El Patron, quand tu retrouves Rey Mysterio, tu connais la cam, quoi. Après, tu as le fait que autour de la Lucha Underground, ce que tu as bien dit, c'est que c'est une série télé autour du catch et où il y a toute la mystique mexicaine de la Lucha Libre qui est représentée, justement, à travers les masques, mais aussi à travers le fait que tu as du clap sur les coups, etc. Ça, c'est typique au catch mexicain. Voilà, dans les vieilles salles, toutes crado à Mexico, Guadalajara, t'as du clapping dans les salles de Lucha Libre, quoi. Donc, un ATMI, un coup de genou, un coup de pied, voilà, tout ça, plus toute la mystique qu'ils ont mis autour des masques et des personnages, ça en fait un espèce de show bouillonnant, voilà, avec 3 titres en jeu. Et ça passe une fois par semaine. Et pour expliquer juste, pour situer le truc, moi, la Lucha Underground, je la consomme au déjeuner, pendant ma pause déjeuner au travail. Ça dure 45 minutes. Voilà, j'ai une heure pour bouffer, j'ai 45 minutes devant la lucha, je mange en même temps, voilà quoi. Et après, derrière, je vais faire un petit com sur les cahiers du catch. Et ça me va bien, ça me va bien.
Ouais, c'est la petite dose de lucha hebdomadaire,
voilà.
Ça prend pas trop la tête. Puis surtout, en fait, ils reprennent effectivement les codes de la lucha, même les super lourds, ils te sortent des flips, ils te font des sauts par-dessus la troisième corde.
Ouais.
C'est toujours impressionnant quand tu as des gabarits comme ça qu'ils font.
Ils ont deux gros powerhouses avec Matanza et Mil Muertes, qui sont vraiment deux gros gabarits énormes, quoi. Et les mecs, ils te sortent du Shooting Star Press, du Suicide Dive, ça y va, quoi.
Ouais.
Même les heavyweights, ils envoient le paquet, quoi.
Ouais. Alors, Je vais revenir rapidement sur les moyens financiers. C'est une série qui n'est pas produite par n'importe qui. C'est Robert Rodriguez qui produit. Robert Rodriguez, c'est un assez gros nom du cinéma quand même. Donc, il y a tout un petit côté cinéma de série télé qu'on a déjà évoqué qui se ressent en fait. On a une patte un peu spéciale qu'on n'a pas dans un show WWE. Ce qui fait une bonne coupure. Moi, honnêtement, j'ai commencé à regarder la Lucha Underground par curiosité parce que je connaissais pas tellement l'univers de la Lucha Libre classique. Ça me permettait de faire une bonne entrée en matière, je pense, du moins pour les règles de base, entre guillemets, l'importance des masques, la mystique du respect du combattant, du respect du sol aussi, parce qu'il y a tout un jeu avec le ring qui a un énorme symbole dessiné dessus, et tu as un énorme respect de certains combattants pour ce symbole. Après, j'ai eu des matchs de dingue, hein, on en parlera peut-être un peu plus, des matchs qui m'ont marqué à
Ouais, les
fond.
matchs, on va voir ça après, les matchs, parce que.
Voilà, on va voir ça après. Alors, tu disais donc il y a trois ceintures, et effectivement, il y a une ceinture par équipe, enfin une paire
Un
de.
trio,
Enfin,
trio
un
championship.
trio de ceintures par équipe, parce qu'on fait ça à la Lucha. La Lucha, c'est plus des trios que des vrais tag teams. Il y a une ceinture intermédiaire qui est très importante, on en parlera plus tard pourquoi. Et il y a enfin la ceinture majeure, bah, qui est le prix que convoite tout le monde.
Le Lucha Underground Championship.
Voilà. Alors, déjà,
Les combats
petit.
concernant les shows, les épisodes qui font 45 minutes, en général, il y a 3 à 4 combats. Et parfois, il peut arriver qu'il n'y ait qu'un seul combat, comme dans le cadre de la Steak Warfare, qui est le Royal Rumble un peu de la Lucha Underground. Là, dans ces cas-là, tu n'as qu'un seul combat qui fait les 45 minutes. Sinon, en moyenne, voilà, c'est 3 combats et parfois 4 quand il y a un squash, quoi. Genre Jack Swagger
Voilà.
qui vient péter une cheville, il te fait bien faire au milieu
Voilà.
du ring. Voilà, donc ça c'est un peu comme ça que ça se passe à la Lucha Underground, quoi. Voilà, on déconne pas, il y a un mec qui débarque. Hein. Les squashs sont en général rapides et violents. Voilà. Après, sur ce que tu as tout dit sur les titres. Il y avait un truc qu'on n'a pas parlé et qu'il faut qu'on n'oublie pas avant d'attaquer sur les matchs et tout, c'est présentation. Il y a systématiquement dans le temple, il y a un groupe de mariachi qui est là et qui fait l'ambiance, qui fait la musique. Il y a une annonceuse qui est nommée Melissa Santos et les deux commentateurs, c'est Matt Striker et Vampiro, quoi. Vampiro, c'est un catcheur canadien qui s'est reconverti dans les commentaires maintenant il y a pas mal d'années. Et Matt Striker, bah, pour les suiveurs de WWE, vous le connaissez tous, quoi, hein. Moi, j'adore ce mec. Voilà, je trouve qu'il a un nom en plus super méga fun. Et Matt Striker, ça envoie du pâté, je trouve. Et ces deux gars-là, ils se sont trop bien trouvés. Ça fait 4 saisons qu'ils sont ensemble. Ils n'ont pas bougé. Et c'est du top. Ça met du top encore plus au show, quoi. Ils ont une patate. Et moi, c'est ce que j'attends au catch, quoi. Ce que je reproche des fois à Michael Cole ou à une Renee Young. Et voilà, moi, j'attends de la patate, quoi. Et Matt Striker et Vampiro, ils envoient du pâté. Voilà.
Donc oui, alors je voulais parler de la présentation un peu plus tard, parce que d'abord,
Ça c'est fait.
je voulais parler de certains éléments qui moi énormément dans les épisodes en général, c'est notamment la proximité avec le public. C'est pour vous dire, vous voyez un ring de la WWE, vous avez toujours un mètre et demi entre le bord du ring et la barrière de sécurité. Bah, la Lucha Underground, la barrière de sécurité, c'est quoi? Ça n'existe pas. Et on n'en met pas. On est au pied du public, le public est au pied du ring. Ça arrive régulièrement que les matchs se finissent dans le public. Allez, pas de problème. On s'envoie joyeusement sur des gars qui avaient été choisis à l'avance pour réceptionner les chocs.
Pas plus tard que jeudi dernier.
Par exemple, il y a eu un match où le public était impliqué également. Ils avaient. Premier rangé avaient tous des ceintures, ils avaient le droit de taper les luchadors qui s'approchaient trop près d'eux. C'est toujours fun à regarder. Voilà, donc il y a ça qui me plaît bien, et cette proximité. On se retrouve un peu les shows à l'ancienne, avec du public qui participe, il est vraiment présent.
Alors, il faut quand même bien signaler que c'est un show explicite où il y a de la violence. Moi, je suis père et mon fils qui est mineur, je lui ai jamais fait regarder la Lucha Underground, quoi. Voilà. Pour moi, c'est un
Et
spectacle
ça.
d'adulte C'est un
Et ça,
spectacle
c'est absolument
violent,
pas.
il y a du sang, et il y a beaucoup de feux qui sont quand même un peu, on va dire, un peu borderline, tout à fait. Donc c'est pour un public averti et des adultes, à mon goût.
Ah oui,
Bien sûr.
complètement,
Voilà, tu vois.
complètement.
Donc
Le
moi, c'est ma deuxième.
langage est clairement pour adultes, ou allez, on va dire adolescent, en fin d'adolescence, mais
Voilà.
c'est déjà un peu limite. Le sang, il y a des giclées de sang et c'est pas du faux sang, hein, il s'envoie vraiment dans les barricades, dans les poteaux, dans tout ce que tu veux. Il saigne vraiment. C'est pas du blade job à la con. Roman Reigns qui ramasse une capsule de sang et ça se voit qu'il a ramassé une capsule de sang. Là, ils sont vraiment.
Ouais, tout à fait. Ouais,
Donc.
mais je pense que c'est un truc important à signaler parce que il y a aussi des gens qui suivent justement la WWE, etc. Parce qu'il y a ce côté PG. La lucha
Ouais.
underground, c'est tout sauf PG.
C'est
Voilà.
ça, c'est
Voilà,
ça.
le PG n'existe pas. Et ce qui ajoute en plus au fait que le PG n'existe pas, c'est que à la lucha underground, il y a des nains, il y a des transgenres, il y a des combats hommes-femmes, il y a des transformistes, il y a des hommes masqués, des femmes masquées. Voilà, c'est un joyeux cirque mexicain avec tout ce qui peut induire de violence. Voilà, c'est
Ouais.
pour moi, ça fait partie, c'est une partie inhérente de ce show.
Ouais, entièrement d'accord. Les matchs, alors justement, ça a été un truc qui m'avait surpris au début. Parce que bah j'ai suivi le produit WWE. Pour moi, ouais, les femmes, bon, quand elles ont interaction avec un homme, c'est elles lui foutent une baffe et puis c'est fini. Et bah là, à la Lucha Underground, la femme, elle sait se défendre et plutôt bien. Elle t'envoie des tatanes qui font mal. Alors, c'est très. Il y a quand même un truc qui est rajouté en post-prod souvent, c'est notamment quand il y a un os qui est censé se craquer pour les besoins de la storyline, il rajoute le craquement de l'os en post-prod. Ça donne des sons assez dérangeants parfois. Quand t'as l'impression que la chie craque et t'entends le. Ah, non,
Ouais,
ça fait mal. Ça
tout à
fait mal.
fait. Voilà, ouais. Beaucoup de bruitage, beaucoup de clapping, un public qui est super bien géré parce que les Believers, voilà, les Believers, c'est une ambiance. Pour moi, c'est la plus belle ambiance de tous les shows de catch que je regarde. Ça, c'est vraiment le public, c'est extraordinaire.
Moi les gars là j'ai une petite question, c'est j'en poserai pas beaucoup parce que c'est le bordel là où je suis en direct là, je fais le mixage depuis le temple à Los Angeles.
Ah ouais.
Je suis en France, comment je fais pour regarder la Lucha Underground?
Alors,
Est-ce que c'est diffusé quelque part?
il y a
Il y a deux endroits déjà. Il y a
alors
déjà t'as
il y a
El
les
Rey Network. Tu peux passer par le network de El Rey, la boîte de prod qui diffuse la Lucha Underground. Tu peux le voir sur Action, sur une chaîne française où il est diffusé. Alors il est diffusé avec un décalage. Hein. Il n'est pas en direct. Hein. Il n'est pas dans la bonne continuité, je crois. Il me semble qu'ils ont un décalage de. Ah, je me souviens plus. Je veux pas dire de conneries.
Ils ont quasiment une demi-saison de décalage, il me
Une
semble.
demi-saison de décalage? D'accord.
Ouais, il me semble. Après, je dis peut-être des bêtises, hein.
Et
Comme moi,
après,
je.
je vais pas te donner les liens Internet après pour trouver le show si jamais tu galères véritablement en termes télévisuels, n'est-ce pas, pour trouver ton show favori de Luchador masqué.
Alors, après, il me semble, ce sera à vérifier parce que j'ai pas de compte pour le faire, que les deux premières saisons sont disponibles sur Netflix en ce moment.
Duffy.
Donc, c'est toujours un bon début. Netflix peut vous sauver la vie si vous voulez voir la Lucha Underground. Voilà.
Voilà, donc après là, une saison fait à peu près, je sais pas, une trentaine d'épisodes, tu me corrigeras, et qui se termine systématiquement par un pay-per-view qui dure à peu près 3 heures, quoi. Voilà. Et
Voilà.
sur les 4 saisons, vous avez. Il y a eu le roster a beaucoup bougé, beaucoup changé au fur et à mesure. Il y a eu des personnages quand même qui sont centraux et qui continuent à évoluer depuis 4 ans, comme Johnny Mundo, comme Mil Muertes, comme Pentagone, comme Phoenix. Il y en a qui ont fait des passages, comme El Patron, comme Rey Mysterio, comme comment il s'appelait le gars Ezekiel Jackson là, avec les
Rick,
boules, le bowling à la place des trapèzes.
ouais, Big Rick
Big Rick, ah oui, voilà, Big
fait
Rick.
le main event du premier épisode.
Exactement, exactement.
Donc
Donc,
voilà. écrit que ça, le roster a beaucoup bougé depuis la saison 1. Il y a des gars, ils ont fait des apparitions très courtes. D'autres, qu'on se disait, ouais, bon, ils vont faire juste une petite apparition, puis après, on les verra plus. Bah, ils sont devenus les personnages centraux de l'histoire. Puisque Lucha Underground, tout va se jouer autour du titre majeur, qui n'a pas été introduit dès le début de la série, en fait. Il a été introduit beaucoup plus tard, quasiment à la moitié de la première saison. On a eu un Aztec Warfare, donc le match que tu parlais avant, l'espèce de Royal Rumble. Alors, précisons que contrairement à Royal Rumble où il faut se balancer par-dessus la corde, là, tu peux balancer l'adversaire par terre, on s'en fout. Tu dois le battre, tu dois le faire tomber ou le soumettre. Sinon, il n'est pas éliminé et il continue à combattre. Ce qui donne des séquences où tu as tout le monde qui saute dans tous les sens, les uns sur les autres. C'est assez hallucinant avec les tambours aztèques qui annoncent l'arrivée du prochain combattant et la porte qui s'ouvre, qui est tout en haut du, en fait, qui est en haut des gradins. T'as un escalier central pour descendre au ring. Et là, t'as tout le monde qui se jette les uns sur les autres. Voilà. L'Aztec Warfare, c'est un Royal Rumble. L'Aztec Warfare, c'est un Royal Rumble, mais en mieux, à mon goût. Le Royal Rumble, c'est génial, mais l'Aztec Warfare, c'est encore mieux.
Et mon Brobad, il y a un mec qu'on a oublié et qu'on va peut-être finir par lui, parce que, en fait, c'est quand même le personnage central de Lucha Underground, c'est Dario Cueto, et maintenant Antonio Cueto.
Alors, Dario Cueto.
Le general manager Lucha Underground, quand même, quoi.
Qui est Dario Cueto, voilà, c'est le promoteur de la division. C'est le gars qui possède le temple, qui possède les contrats, qui. Bah, tout le pognon vient de chez lui.
Il possède les valises de billets, c'est lui qui a l'argent. C'est 1%, nous sommes les 99%.
Alors, tout l'argent vient de chez lui. En fait, au début, dans les deux premières saisons, c'est ce qu'on pouvait penser. Et la storyline de série télé, un peu de telenovela, ça, on va pas se mentir. Il y a des moments, c'est tellement alambiqué qu'on se dit, c'est pas possible, ça peut pas arriver vraiment. En fait, je vais pas tout vous spoiler, mais son argent, il est pas très clair, il est pas très net. Il y a de la police qui enquête sur lui, avec des gens infiltrés, avec des ouais. Micros. Enfin,
il a le FBI au cul. Qui viennent soit déguisés en catcheur, soit déguisés en promoteur, les balises de billets qui passent sous le bureau à gogo, il te book des matchs. Alors lui, hein, à WWE, ils adoreraient un mec comme ça. Lui, il te book des matchs en 3 minutes, quoi. Lui, il arrive, paf, tu déposes 2 000 $ sur la table et bim, le match, il est booké. C'est magique. Ça. Voilà. Donc, les heels, donc, s'en donnent à cœur joie, quoi. Ils débarquent dans son bureau, fiers comme des coqs et tout. Bam, bim, oh, j'ai une petite valise, Dario, et bim. Mais bon, Dario, il meurt. Il est mort à la fin de la saison 3.
Ah, et tu spoiles trop, là, le gros spoil. Oh là 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 là. Oh là 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 là, le gros spoil. Ouais, bah, maintenant que c'est lâché, on va
bah, c'est la saison 3, bah, Karma.
Ah, mais si les gens, ils avaient envie de reprendre depuis la saison 1, ils connaissaient pas.
Ah non, mais non, faites pas ça, allez directement à la saison 4, là, allez-y. Le passé, ouais. C'est le passé, allez.
Pixar a raison, la saison, à la limite, vous reprenez la saison 3 rapidement, en mode, vite fait, je regarde un épisode sur deux, pour regarder Ultima Lucha, qui est le pay-per-view de fin d'année, qui est en fait un méga épisode de 2h30, 3h, coupé en plusieurs morceaux pour tenir dans le format de 45 minutes, et... Vous avez les tenants et aboutissants de la saison qui est en cours, qu'on va développer un peu plus tard, un petit peu.
Il y a quelques matchs All-Star à voir aussi, quoi. Et sans voir toutes les saisons, il y a de quoi faire.
Justement, quels seraient les matchs que tu conseillerais à quelqu'un qui découvrirait la Lucha Underground s'il devait choisir, allez, 3 matchs à regarder absolument.
Ok. Je te donnerais le Warfare, le tout premier de la saison 1. Voilà. Je te donnerai un ladder match Johnny Mundo Prince Puma. Je vais être dans le. Et je vais donner le dernier match que j'ai vu, c'est-à-dire le Mask versus Mask entre Son of Havoc et Killshot. Voilà.
Voilà. Alors, donc, ça, ouais, je suis d'accord, ces matchs-là, il faut les voir. Je vais en rajouter 3 personnellement.
Vas-y.
Le premier que je vais rajouter, c'est un autre match entre Prince Puma et Johnny Mundo, qui était un. comment ils appellent ça, un all night long match. En fait, c'est un Iron Man match. Ils se sont envoyés pendant 45 minutes. C'était hallucinant. Je donnerai également le Cielo Miedo match de Lucha Underground, de Ultima Lucha 1, entre Pentagon et Vampiro. Parce que quand t'es pas habitué à une telle violence, tu te dis mais c'est pas possible de faire ça. Et en fait, si, bah, ils sont capables de le faire. Et je rajouterai alors, peut-être pas un match, mais un pot pourri des meilleurs matchs de Trios Championship impliquant l'équipe de Son of Havoc, d'Evilis et de Angelico. Ce mec est un fou furieux. Il se fait des spots où il manque de se tuer à chaque fois. Il saute de 20 mètres de haut sans problème. Bref, essayez de regarder ça. Je crois qu'il y a des images qui tournent sur la vidéo.
Angelico, c'est un Sud-Africain.
Ouais.
Et il a fait les deux premières saisons, mais malheureusement, il s'est blessé assez gravement parce qu'il a un catch légèrement à risque. Et donc, il s'est pas mal pété. Il était même pressenti à la WWE. Là. Et, ouais. Et je crois pas que ça se passe très, très bien pour lui, pour l'avenir de sa carrière. Je crois que physiquement, il est pas mal abîmé, quoi.
Alors, vu qu'on va devoir faire une petite coupure pub, je vais en profiter pour dire que dans le chat, Sully Perfecten, lui, il nous dit son match préféré, c'est le No Mass Match entre Mariposa et Sexy Star. Et c'est vrai que quand on n'est pas habitué à avoir du cash féminin de ce niveau, ça envoie du pâté. Le match, il était impressionnant. Sully, je suis entièrement d'accord avec toi.
Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé trop des femmes, mais les femmes, elles ont extrêmement important à la Lucha Underground.
Ouais.
Entre les catcheuses, les Katrina, les catcheuses entre Sexy Star, Mariposa, Cobra Moon, Evilis, Taya, le roster féminin à la Lucha Underground, il est important, quoi. Et comme elles combattent indifféremment les hommes comme les femmes,
voilà.
Donc, du coup, elles sont sollicitées dans beaucoup, beaucoup de feux entre les différents catcheurs. Et dans le roster, elles sont extrêmement importantes, quoi. Katrina a un rôle fondamental. Je l'aime, Katrina. Mais il ne faut pas le dire.
Alors,
ma femme, si elle voit ça, elle va me...
On va donc faire la pause là. Quand on viendra après la petite pause, on va parler un peu plus en détail de cette saison-là, qui s'achève bientôt, parce que les épisodes de Ultima Lucha sont dans les tuyaux. Ils commencent après-demain, il me semble, ou alors ils ont même déjà commencé. On n'est pas trop sûr, parce qu'il y a un match qui avait été annoncé pour Ultima Lucha qui est déjà passé. Donc,
la saison 4 va suivre.
Donc, on vous donne quelques minutes de répit. Allez vous chercher un verre, buvez un coup, et on se retrouve tout à l'heure. Yo. Alors, on est de retour. Et maintenant, comme je le disais avant la pause, on va parler de la saison 4 et de tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir regarder tranquillement Ultima Lucha 4 qui commence donc.
Olé, olé, olé.
Qui commence après. Et Crix est déjà chaud. Déjà chaud. Alors, mon bon Crix, tu as là, il m'a dit.
Yes.
Donc, on va commencer. On va regarder la carte et puis on va dire les événements rapidement qui ont mené à ce match-là. Pourquoi ce match-là existe.
Voilà, tout à fait, Thierry. C'est ça l'affaire. Et alors, donc on arrive à Ultima Lucha là. Cette semaine, c'était la semaine passée. C'était le dernier épisode de la saison régulière, si vous préférez, et qui a terminé par un match qui était prévu sur la carte d'Ultima Lucha, mais qui en fait a été avancé. Donc ça sent le cash-in, on en parlera plus tard. Du coup, on a eu droit, dans le dernier épisode de la saison régulière, on a eu droit à un masque versus masque. Bad, tu vas donner ton avis là-dessus. On a eu un masque versus masque entre Killshot et Son of Havoc, qui a été assez énormissime. Avec un ou deux botches réglementaires, hein, quand même. Hein. Ouais, mais un match énorme. Donc, je veux entendre ton avis là-dessus.
Bah, pas grand-chose d'autre à ajouter. Ce match était énormissime. Les coups qui se sont envoyés, ils faisaient mal à voir parfois. Tu te dis, mais aïe, j'ai mal pour lui. Quoi. Le final où Son of Havoc envoie son finisher, le Shooting Star Press, sur Killshot, qui est allongé sur une civière et attaché à la civière pour éviter qu'il ne s'en aille. Ils sont envoyés dans des tables, ils sont envoyés dans les poteaux, dans le public, dans les rambardes. Ils ont dégusté tout ce qu'ils pouvaient dans le ring, quasiment.
Ouais. Un match
assez impressionnant.
Et du coup,
et comme tu disais, il aurait dû être sur la carte d'Ultima Lucha. Il a été déplacé d'une semaine.
Il est déplacé d'une semaine. Donc en fait, ça, c'était le dernier combat. La saison 4, pour situer un peu au Bullyverse, là, qui sont devant leur écran, yeux ébahis. Ça a été l'arrivée de nouveaux personnages. Il y a eu un départ fondamental, ça a été le départ de Prince Puma, alias Ricochet, qui est donc parti à la WWE. Ça a été quand même une perte terrible pour le show, quoi. On a eu la mort de Dario Cueto, le fils, et on a eu l'arrivée du père, qui est encore plus une ordure que son fils. Je vais vous dire un peu la pourriture absolue que c'est, quoi. Et on a eu l'arrivée. Alors là, Bad, on va en parler. Ça, on a eu l'arrivée de With the People, les gars.
Et on
a
oui.
eu Jack Strong, aka Jack Swagger.
Jack Swagger à la WWE qui débarque à la Lucha Underground sous le sobriquet de Jake the Savage. Donc en plus, ils annoncent qu'il est sauvage, qu'il va faire mal. The Jake the Savage Strong. Et il a fait une entrée vraiment remarquée dans le roster, à tel point qu'il a capturé il y a 2 semaines, dans un match qui a duré tout un épisode, donc un match d'une quarantaine de minutes, un 7-way elimination match. Il a capturé la ceinture intermédiaire, qui n'est pas anodine parce qu'en fait, elle donne accès, comme un contrat Money in the Bank, à un match où tu veux, quand tu veux. Au départ, lorsque cette ceinture avait été présentée, la règle c'était tu dois laisser au promoteur une semaine minimum pour qu'il puisse promouvoir le match, le préparer. Cette règle-là a été balayée par Antonio Cueto, le père, qui a dit voilà, moi je m'en fous d'attendre une semaine. Tu veux le match tout de suite, tu l'as tout de suite.
On est comme ça, nous, à la élu, on en a rien à foutre. On va au book, bam, en 2 minutes, hop, on voit.
Et donc, voilà. Donc, on va retrouver un... Alors, Jake Strong n'a pas de programme pour l'instant à Ultima Lucha. Est possible qu'il choisisse le moment pour cacher sa ceinture sur le champion. Parce que pour l'instant, il faut savoir que c'est un taux de réussite de 100%. Ça a toujours fonctionné.
Ouais, 100% des cacheurs ont tenté leur chance.
Et ils ont 100% réussi.
J'avais pas mieux.
Alors, donc, on va maintenant partir sur la carte d'Ultima Lucha. On va prendre du moins intéressant, entre guillemets, à ce qui fera le main event du show.
Alors, on va sur la saison 4, en fait, pour arriver à Ultima Lucha. Il faut savoir quelques petits trucs. Matanza, le fils de Antonio Cueto, qui est donc l'un des powerhouse de la Lucha Underground, lui, il a passé la saison à démolir les gars et à un boulot, ma foi, fort sympathique. Donc son taf, à lui, c'était Sacrifice of the Gods. Il débarque, son père l'appelait et il débarquait sur le ring. Antonio Cueto avait choisi au préalable un catcheur et Matanza le démontait. Voilà, de manière tout à fait sympathique. Le démontait à grands coups de DDT et de corde à linge. Et les mecs, en fait, comme ça, quittaient la saison, comme Jack Evans, par exemple. Voilà. Donc ça a été un des trucs tout au long de la saison. Et c'est ce qui se passe à Ultima Lucha. Matanza, il est envoyé au Sacrifice of the Gods face à Johnny Mundo, qui est l'une des superstars absolues.
C'est ça, voilà, la tête d'affiche actuelle de la Lucha Underground. Le mec le plus connu. Le gars, il a tout gagné. Hein, on va pas se cacher. Chacune des ceintures, il l'a possédée au moins une fois. Il a été champion.
Depuis que Prince Puma est parti, c'est le top guy de la Fédé.
Alors, il faut savoir que si on suit la classique opposition face heel, il serait plutôt heel, Johnny Mundo. Mais à la Ultima Lucha, à la Lucha Underground, on s'en fout. À moins d'être le dernier des salopards, le public, il n'est pas là pour te bouer ou pour t'acclamer. Il est là pour que tu te battes et que tu fasses ton taf de violence. Il veut de la violence, le public. Il est comme ça.
On va nous prendre pour des fous furieux. Tu comprends pourquoi je mets un masque? Est-ce que tu comprends pourquoi je mets un masque maintenant?
Là là. Hein?
Alors...
J'ai pas de masque, moi.
Je te jure de quoi on est en train de parler là. Non mais maman, je suis désolé, je te jure. C'est Irène, il m'a forcé, quoi. Et sa femme, elle veut pas me vendre son t-shirt.
Et donc,
oh, allez, on reprend. Allez, Ultima Lucha, donc.
Eh bah, on a vu qu'on l'a déjà évoqué, on va parler de ce match-là. Johnny Mundo contre Matanza Sakueto, Sacrifice to the God.
Voilà.
En fait, le but de ces sacrifices, c'est de rendre Matanza encore plus puissant.
Voilà.
L'idée, c'est voilà, c'est un dieu enveloppé, bloqué dans une enveloppe charnelle, et tous les sacrifices vont l'amener à se libérer de cette enveloppe et devenir le monstre qu'il doit être.
Et reprendre à terme le titre élu dans la prochaine.
Voilà.
Si, ça pourrait se passer comme ça, quoi.
C'est le plan ultime de Antonio.
C'est un personnage présenté vraiment. C'est la puissance absolue avec Mil Muertes. C'est vraiment les deux gros powerhouse de la lucha underground, quoi.
C'est un Matanza, il a perdu, je crois, 3 matchs à tout casser en 3 ans.
Ouais,
en 3 ans de lucha underground, il a perdu 3 matchs.
Alors que. Alors que ça, le ratio victoire-défaite, c'est aléatoire. Hein. C'est pas quelque chose. Il n'y a pas beaucoup de streak, il n'y a pas beaucoup de choses comme ça, quoi. En plus, ils sont souvent mis dans des matchs en trio, donc du coup, ils perdent des matchs en trio aussi.
Ouais.
Rey Mysterio, il en a fait les frais. Hein. Il s'est fait un peu marave avec Phoenix et Dragon Azteca, quoi. Ça lui a fait un peu les pieds. Ça lui a fait un peu maigrir. Un peu, hein, il a craché ses burritos, là, et à la WWE, il est super fit, maintenant. Ça lui a fait du bien, la lucha underground. Non, vous n'êtes pas d'accord?
Alors, on a eu toute une série de matchs pendant la saison où Matanza a squashé des jobbers ou des mecs un peu connus, mais qui n'avaient pas forcément de gros programme.
Qui s'en allaient.
Jusqu'à, en fait, un événement qui... était un peu le point d'orgue d'une toute une storyline sur Johnny Mundo et une de ses partenaires dans son équipe, Aya. En fait, dans la vraie vie, ils sont ensemble et là, ils avaient officialisé la chose. Ils allaient se marier dans la vraie vie et ben ils se sont mariés à Lucha Underground. Sauf que Matanza a été relâché à ce moment-là et a défoncé le mariage comme on pouvait s'y attendre. C'était glorieux, comment je pourrais dire ça? Ah, c'était génial, quoi. Les mariages crachés comme ça, c'était magnifique. Alors, du coup, pour se venger, Taya avait voulu affronter Matanza. Antonio Cueto lui avait dit d'accord, mais ce sera un sacrifice to the gods. Et ouais. Sauf que le Johnny est venu sauver sa femme, et du coup, c'est lui qui fera office de bouc émissaire, de sacrifice, sauf s'il gagne, auquel cas on ne sait pas ce qui se passera pour Matanza.
Non, ça va être un peu la découverte. Il va y avoir une cinquième saison, on verra bien. Ce personnage-là, il est... Ouais, il faudra voir s'il y a une cinquième saison et voir comment ça se passe. Alors, voilà. Je suis désolé, les amis, mais en fait, j'ai paumé le lien avec la carte et du coup, j'ai plus les matchs sous les yeux de Ultima Lucha 4, quoi. Mais je sais, grosso merdo. Pour revenir sur ce que tu disais, je voulais remettre juste un détail sur Johnny Mundo. Johnny Mundo, en parallèle, il mène sa carrière à la TNA, où il est Johnny Impact.
Oui.
Oui, il est Johnny. Excusez-moi, on me téléphone en même temps. C'est les affaires. C'est Katrina qui m'appelle et Christophe, qu'est-ce que tu fais? J'arrive. Non, en fait, c'est ma femme qui veut m'égorger. Alors, donc, qu'est-ce que tu fous? Allez, vas-y, bah, reprends.
Du coup, je sais plus où j'en étais, moi.
J'ai fait exprès de te perturber, en fait. Je suis un perturbé.
Donc, du coup, je vais repartir sur la carte d'Ultima Lucha. Je vais mettre en. J'ai pas tous les matchs, mais j'ai une partie des matchs en tête.
Le triathlon.
Il est déjà passé celui-là. Un match qui va être intéressant à regarder. Ça va être Phoenix contre Dragon Azteca Junior dans un 2 out of 3 falls match. Alors, comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui... Faut savoir qu'à la base, Phoenix et Eldragon Azteca étaient amis. Et donc, comment ils en sont arrivés à un match comme ça? Qu'est-ce qui les amène à ça? C'est assez dérangeant ton téléphone.
On m'appelle, j'aurais dû... Moi, je saurais, je suis un rookie, alors excusez-moi.
Non, mais
je fais des erreurs techniques encore.
Bah écoute, pour te faire pardonner, c'est toi qui vas raconter comment Phoenix et Dragon Azteca en sont arrivés à se battre.
Alors, Phoenix et Dragon Azteca, c'est toute une histoire. Un roman d'amitié qui commence et qui finit mal. Ces deux-là, ils se suivent depuis le début. Avec eux, d'ailleurs, en parallèle, il y a Phoenix, il y a Dragon Azteca, mais il y a aussi Drago, il y a aussi Aerostar, il y a aussi Rey Mysterio qui s'est joint aussi à ce groupe-là. Il y a toute une espèce de stable qui s'est montée au fur et à mesure des saisons, qui se dispersait, qui se battait entre elles de temps en temps, mais qui se rejoignait toujours. Voilà, l'amitié, quoi. L'amitié trop forte. Et donc, ces personnages-là, et, voilà, là, on est vraiment les luchadors de la lucha underground. Toute cette clique-là, là, les deux frangins, Phoenix et Pentagone, parce que Pentagone, je le garde pour la fin, parce que voilà, celui-là, c'est le bonheur. Et donc c'est, là, c'est tous les masques. Il y a King Cuerno aussi qu'on peut ajouter, mais King Cuerno qui n'a jamais fait partie de cette stable-là, parce que lui, c'est un solitaire, c'est un chasseur. Et lui, il chasse à l'arc. Et il, voilà, donc du coup, il est tout seul, il préfère, il bouge mieux tout seul. Voilà. Et voilà, pour les luchadors masqués, voilà, ça, c'est toute cette clique-là, en fait.
Main event. Non, alors, comment ils en sont arrivés à se déchirer et avoir deux des meilleurs amis qui s'affrontent? Et en fait, il faut remonter un peu plus tôt dans la saison. Il y a eu un match gimmick qui s'est joué avec d'un côté Mil Muertes. Le mec, sa gimmick, c'est un immortel. Il meurt, il renaît. Donc son match, c'est un casquette match. Mais un casquette match avec toute la mystique du jour des morts mexicains, les costumes qui vont avec, les maquillages qui vont avec, ça change bien. Ça change un peu du casquette match de Undertaker.
Voilà.
Alors c'était un match à trois avec Jeremiah Crane, qui est Sami Callihan pour ceux qui connaissent un peu plus, Phoenix et Mil Muertes. Mil Muertes a mis ses deux adversaires dans les cercueils. Il a donc gagné le match. Donc théoriquement, Phoenix était mort dans la storyline, et c'est là qu'arrive le côté un peu télé-nova, un peu série télé, en fait. Melissa Santos, l'annonceuse qui était officiellement la petite amie de Phoenix, a cherché un moyen de le ressusciter. Et en le ressuscitant, grâce à un médaillon magique qui était au cœur de la saison 2 et de la saison 3, mais là, et qui est un peu passé à la trappe depuis cette affaire, grâce à ce médaillon, en fait, elle l'a ressuscité, sauf que elle l'a ressuscité en Dark Phoenix. Il est devenu, voilà. Il est passé de l'autre côté de la force.
Il est devenu Rudo, quoi. Il est devenu Heal.
Rudo, totalement. Et ce qui correspond en fait à son style actuel, parce que avec, il a un style un peu plus stiff maintenant dans les autres fédérations. Ouais. Ça correspond à ce style-là. Donc ils ont profité de la transition pour faire cette histoire-là. Il a coûté un match en équipe avec Drago et El Dragon Azteca pour les ceintures. Donc du coup, ils ne les ont pas gagnés. Il a coûté à Dragon Azteca sa ceinture Gift of the God, qui est la ceinture que Jack Strong possède actuellement, qui permet d'avoir un title shot. Dragon Azteca voulait la défendre jusqu'à Ultima Lucha et après encaisser une fois Ultima Lucha terminé. À cause de Phoenix, il a perdu sa ceinture. Qui est passé entre les mains d'un adversaire classique de cette équipe à la base, Marty Martinez. On en reparlera un peu plus tard vu qu'actuellement il est le champion, il est dans le main event. Et donc du coup, ils en sont arrivés là. Voilà, Dragon Azteca veut se venger, Phoenix veut continuer son chemin dans le côté obscur et ils vont se mettre sur la tronche dans un Two Out of Three Falls. Qui devrait envoyer du lourd vu le niveau des deux.
Ouais, ça me va comme explication. Je pense que tu as bien résumé. Quoi. Voilà. Après, moi, j'ajouterais juste que donc faut y rajouter toutes les histoires d'amour avec Mélissa Santos. Donc il y a eu des trahisons, on a eu droit à des segments hors ring, voilà. D'un côté, tu as le FBI qui est tout le temps au cul d'Antonio Cueto, et puis de l'autre côté, tu as toujours Melissa ou Katrina qui sont dans des histoires pas très très nettes, avec des garçons pas très recommandables. Et du coup, c'est voilà, ça met du sel, et c'est un des éléments vachement sympas dans la série, c'est ce break qu'il y a. Voilà, on passe d'un gros combat, voilà, derrière. Bam, bam, ils enchaînent sur un truc, sur une faute qui est en train de se mettre en place, ou tout d'un coup une trahison quelconque. Et du coup, ça donne du rythme. Et tu as un épisode de 45 minutes, c'est déjà condensé en catch. Mais à travers quelques segments, ils arrivent à bien structurer l'ensemble. Et c'est. Voilà, je pense que pour un suiveur de catch, même s'il ne retrouve pas le catch WWE, il va y trouver plein d'éléments dans lesquels il va quand même être un peu satisfait. J'espère, en tout cas.
C'est ça. C'est toute la petite partie dont je parlais au début, toute la partie série télé. Honnêtement, c'est pas dérangeant. C'est même rafraîchissant parce que ça fait des bonnes pauses. Et ça permet d'avoir un fil conducteur qui n'a pas besoin d'être expliqué dans le ring.
Ouais, et puis il n'y a pas de thunes. Alors c'est filmé. Même au niveau de comment c'est filmé dans le ring aussi, bon, il y a des caméras aériennes, il y a des choses comme ça, mais parfois c'est un peu. Wow, c'est un peu gerbant, là, tu vois, là.
Ouais.
C'est un peu ça, quoi. Tu te prends une close line, donc à ça, tu rajoutes le clapping et tout ça, et du coup, ça plaît pas forcément à un certain public, parce que c'est peut-être un peu too much, quoi.
Ouais,
mais après, en termes de spectacle, pur in-ring, déjà, ça, c'est un truc de fou absolu, quoi, parce que tous, c'est des. Franchement, sur le ring, il y a rarement des catcheurs médiocres à la lucha. Donc, franchement, c'est rare. Mais c'est rare.
Tout à fait. Donc on va passer à la suite de la carte. Alors je vais chercher la carte rapidement.
Le main event, vas-y pour le main event. Parlons du main event. Vas-y.
Déjà le main event.
Il est lié à tout, quoi. Il est lié à tout.
Lucha Underground. Hop. Ultima.
Lucha Underground Championship avec une magnifique ceinture. Je sais pas si vous la voyez dans le direct à YouTube, là, mais il y a une ceinture Lucha Underground qui est quand même d'une beauté, mes amis. Absolument.
Ouais,
de toute façon, les ceintures, hein, le Gates of the Gods, c'est une ceinture avec 7 médaillons, tac, 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 tout autour de tout autour. Et ça, c'est votre mallette de cash-in à Lucha Underground. Quoi. Ça a de la gueule. C'est autre chose que la mallette toute pourrie de trader des 1% qui martyrise les 99%.
Alors, ça y est, j'ai la carte. Alors, ah oui, j'avais un match, en fait. The Mac versus Mil Muertes death match.
Ouais. On peut en causer, vas-y, si on a encore du temps.
Alors, Mil Muertes, on en a déjà un peu parlé, c'est la grosse powerhouse des premières saisons. Le gars, il est aussi gros, enfin aussi large qu'il est grand. Il t'envoie des patates, tu les sens passer. Et donc là, ces derniers temps, il s'est fait un ennemi, en l'occurrence The Mac, Willie Mac pour ceux qui connaissent un peu. Le gars, en fait, il devait participer à un match pour la ceinture Gift of the Gods. Et sauf que on a donné l'opportunité à Mac d'éliminer avant même le combat un des adversaires. Il a choisi Mil Muertes. Et depuis, ils sont en rivalité.
Il est couillu.
Voilà, ils ont déjà fait 2-3 matchs ensemble dans cette rivalité. Mais là, ils ont décidé, on met le paquet, on est all-in, on met un death match. Qu'est-ce qu'un death match, mon cher Crix?
Un death match, il y en a un qui va mourir. Voilà, deux morts. Voilà. Et ça fait mal de mourir. Selon tous les témoignages jusqu'à présent, 100% des morts ont eu mal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus? Ce match, c'est un match énorme. The Mac, c'est un mec qui a été à la Ring of Honor. C'est un mec qui avait un bon bagage, quoi, qui est passé à la WWE, mais qui était trop gras, trop typé, trop basané. Et donc, il n'est pas passé. Voilà, pas passé. Donc, il est parti à la Lucha Underground. Et pour le bonheur des Believers, et pour le mien, d'ailleurs, tout à fait. Il a eu un ou deux matchs aussi, anthologiquement parlant, mémorable, et dont un avec Cage, où ça s'est terminé avec, je crois, Cage qui fracasse sur un parpaing, le sympathique The Mac. Et donc, voilà, un match, ma foi, bien sympathique. Et The Max est un sacré bonhomme, hyper agile. Il fait 150 kilos, mais il fait des moonsaults de qualité. Et concernant l'ami Mil Muertes, bah, t'as tout dit. Hein. Mil Muertes, voilà, quoi. Le mec, c'est le Brock Lesnar de la Lucha Underground. Ça vous va, les amis?
Alors, dans le chat, il y a Sully Perfecten qui nous dit que pour ce match, il met son billet sur le match, sur le Mac, pardon. Et
Ouais.
d'autant plus que Katrina, qui accompagnait Mil Muertes auparavant, n'est plus là.
C'est vrai. Elle est avec moi.
C'est ta femme qui va être contente d'apprendre ça.
Je pense, ouais.
Donc, pour un peu plus sérieusement, dans la tradition de la lucha, un deathmatch, c'est vraiment le truc qui met fin à toutes les feuds. Il n'y a pas moyen de surpasser ça. C'est tu t'envoies tout ce que tu as jusqu'à ce qu'il y en ait un
Il y en a un
bah,
qui va
qui
mourir.
ne
Hein.
puisse plus se défendre.
On l'a déjà dit, hein, il y en a un qui va mourir. Hein.
Voilà.
Donc ça
Donc
veut
à
dire qu'il y en a un qui va
voir.
quitter. Ça veut dire qu'il y en a un qui va quitter aussi la Lucha Underground.
C'est fort probable. Alors,
Parce qu'à
c'est
la
pour
Lucha
ça.
Underground, quand on meurt ou quand on perd un career match, à la différence de la WWE, on ne revient jamais, mes amis. Jamais.
Alors, c'est pour ça que justement, Sully, donc moi, personnellement, je mettrais mon billet sur Mil Muertes quand même, parce que bah, Mac, il est en train de se bâtir une carrière à la TNA, à
Ah,
Impact Wrestling.
j'ai pas de thune sur
Il a
moi là.
débuté il y a pas longtemps là-bas en partenaire de Rich Swann.
J'ai pas de thune, je suis un travailleur pauvre. Sinon, j'aurais dû faire un pari avec toi, mon bad karma.
Oh, on peut parier juste pour le comment dire, juste pour le sport, hein.
Ok, donc tu dis qui, toi?
Moi, je dis Mil Muertes.
Ok, esprit de contradiction oblige, je suis pas un pour rien. Et je vais dire The Mac par mort violente, comme c'est prévu.
Ouais. Alors, Sully nous rappelle également qu'il y a eu un autre deathmatch avec Mil Muertes, cette fois-ci contre Phoenix. Et c'est vrai que maintenant que tu me le dis, maintenant que tu le dis, j'y repense à ce match où ils étaient passés à travers le toit d'un petit bâtiment, d'une petite cabane. C'était assez violent. Euh,
Souvent,
c'était,
c'est
c'était
vraiment une
hallucinant,
horreur.
quoi.
Ils ont vraiment un problème avec ça, hein, la violence. Hein. Je sais pas pourquoi, hein, vraiment.
Et il y a eu
Vraiment,
aussi
j'arrive pas à me
un.
l'expliquer.
Et il y a eu aussi, si je me rappelle également, bah, à force d'en reparler, tiens, je me rappelle deux choses. Matenza qui avait affronté Mil Muertes dans un deathmatch, qui avait fait un match nul.
Ah ouais.
Parce que les deux étaient passés, les deux étaient hors d'état de combattre, et donc bah, pas de vainqueur.
Ouais, c'est vrai. Bon,
Alors, ce que je vais faire.
t'as bien bossé tes dossiers.
Alors, avant de parler du main event, puisque c'est le dernier match qui reste à présenter, je vais faire un petit aparté sur les arbitres à la Lucha Underground.
Ah.
Si vous avez l'habitude des arbitres WWE qui sont là et qui empêchent tout le monde de faire des trucs, à Lucha Underground, en fait, ils ont obligation de les laisser se battre. La disqualification existe à peine. Je crois qu'il y a eu un match qui s'est fini sur disqualification et il a été recommencé parce que justement Antonio Cueto disait non, non, hors de question qu'on ait une disqualification chez moi, ça sert à rien, c'est pour les tapettes. Allez hop, on recommence le match. Les décomptes à l'extérieur, ça n'existe pas. Ça. Donc honnêtement, voilà.
Ouais,
Les
l'arbitrage,
arbitres.
c'est
Ben,
ouais.
en fait, il y a juste à la New Japan où les arbitres sont encore plus inutiles. Et à la Lucha Underground, ils sont pas super utiles à part faire le tombé de 3.
Ouais, c'est clair. Ouais. L'arbitre à la Lucha Underground, voilà, il est là pour prendre des bumps, quoi. Voilà,
Ouais.
grosso merdo, il sert à prendre des bumps, compter le tombé. Et puis de temps en temps, filer un coup de main au caméraman aussi, parce que je sais pas si t'as remarqué, mais souvent sur les abords de ring et tout ça, t'as tout le temps l'arbitre, en fait, il est là, merde, putain, merde, je fais comment, merde, putain, il est où, ah, vas-y, passe-moi le caméraman, là, ah, vas-y, faut que t'avances par là, là. Donc pareil, quand il pète, on n'a pas signalé, mais quand il pète aussi le mobilier, parce que là, au-dessus de plein, faut parler du mobilier, nom d'un chien, Ikea est en faillite à cause de la lutte
Voyez,
underground,
vous
c'est
voyez
terrible,
les échelles toutes belles, toutes propres de la WWE. Bah vous prenez les mêmes, mais vous leur donnez 5 ans d'âge, elles sont dégueulasses, elles sont sales au possible. Tout le mobilier est sale,
la
mais
table des
ça va.
commentateurs se fait dévaster régulièrement.
Ouais, c'est ça.
Le parpaing, les murs, aussi un endroit qui est très prisé par les catcheurs, c'est la porte de bureau d'Antonio Cueto et sa vitre aussi.
Et la
C'est
vitre, ouais. Alberto El Patron avait fini dans la vitre lors d'un match.
Oui, voilà,
face
tout
à
à fait
Johnny
mémorable
Mundo.
dans la saison 1, dans un Ultima Lucha, peut-être, un Johnny
Voilà.
Mundo versus Alberto El Patron, où Alberto El Patron passe à travers la vitre et passe à travers la vitre, quoi! Voilà!
Et ouais, la vitre, elle a envoyé du lourd, la vitre.
Ouais.
Bon, allez,
Main event?
un autre match, ouais, qui va envoyer du lourd, le main event
Voilà, main event.
pour la
Attendez, plus là, on
ceinture.
déconne plus, c'est la fin du show, là. Tout ce qu'on a, c'est le money time. On y est, on est au taquet, on est au main event de Lucha Fort et ça va envoyer.
Voilà, entre le champion Marty Martinez dit The Moth, donc la mythe en fait. C'est très nul en français, je trouve le nom, mais c'est pas grave. Alors,
Il vole, il vole, ce garçon, il vole.
faut savoir que il se revendique d'une ancienne tribu aztèque qui était la tribu de la mythe. Comme il y a les guerriers jaguars, les pumas, enfin les pumas, les jaguars, les serpents, là il se revendique d'une tribu qui est la mythe. Bon, c'est son délire, on va pas l'embêter. Toujours est-il qu'il est champion. Il est champion pourquoi? Parce qu'il a battu Dragon Azteca pour la ceinture Gift of the God, qu'il est allé voir Antonio Cueto avec deux énormes liasses de billets et qui lui a dit, bah écoute, la règle du
On le scroll, bébé.
il faut une semaine, on l'oublie. Voilà, moi je veux que ce soit maintenant. Et puis tiens, je veux même mon match ce soir. Comme ça, j'encaisse ma ceinture tout de suite.
Voilà.
Alors, Koala Écarlate, ça s'écrit pas comme ça. C'est la mythe, celle qui bouffe les vêtements, celle qui est pas gentille. Ça, c'est
Voilà,
le
c'est
mythe, ce
ça.
que tu écris. Mais
Alors,
c'est pas grave.
on va essayer de le rendre un peu plus glamour, ce main event, mais franchement.
Et donc.
Avec le cash-in de Jack Strong qui va certainement.
Attends, j'ai pas encore parlé du challenger.
Oh, mais faux! Ah, t'as pas
Je
parlé
n'ai pas parlé du challenger. Le challenger, c'est l'ancien champion. C'est
du
Pentagon
challenger?
Dark qui est arrivé à Lucha en tant que Pentagon Junior et qui a eu tout un chemin au fil des saisons initiatiques pour passer du côté obscur, mais vraiment du côté obscur. Le gars, son délire, c'est péter des bras. Et quand je dis péter des bras, c'est au sens littéral. Et quand il finit son match, il vous met dans une position et il vous attrape le bras et il tire vers l'arrière alors qu'il pousse avec ses pieds. Il vous déboîte le bras. C'est son délire. Ah, Crix, c'est un souci de casque.
Ouais, excusez-moi, vous m'entendez toujours là?
Ouais, je t'entends, c'est bon.
Ah ok, ça va, alors ça marche. C'est déjà si vous m'entendez, c'est bien.
Voilà. Donc, il a défendu sa ceinture pendant quasiment les deux tiers de la saison, jusqu'au cash-in de Marty, qui a été aidé par Reclusa, oui, comme le souligne Sully Perfecten dans le chat. Reclusa, qui est une alliée de Marty the Moth, c'est mieux en anglais The Moth que la mythe. Et du coup, Pentagon a demandé un rematch. Il aura son rematch. Et ce rematch, c'est un Cerro Miedo, qui est en fait le gimmick de Pentagon, le Zero Peur, Zero Fear. Ça va être un match hardcore. Le sang va gicler.
C'est ça,
Les ustensiles vont s'envoyer.
nom d'un chien, c'est ça.
C'est pour vous dire,
C'est
lors
ça.
du premier Cerro Miedo match, ils se sont finis, le Pentagone et Vampiro, à coups de néon. Ils se sont tabassés à coups de néon, quoi.
Mais ouais, mais ils sont fous, ces gens. Moi, je vous le dis, ils sont fous. Mais ce main event, ça va s'annoncer un putain de match de catch, déjà. Et pour situer les deux gars, en fait, eux deux, ils sont là quasiment depuis le début. The Moth, il est arrivé au milieu de la saison 1. Il est arrivé au moment de l'Aztec Warfare. Et par contre, Pentagone, il est là depuis le début. C'était un maxi top baby face au début. Il est devenu un gros roudeau, bien méchant, bien gras, bien voilà comme on aime là quand ça dégouline de méchanceté là. Et puis en fait, au fur et à mesure, il a fait son personnage. Il est monté jusqu'au titre. Il a eu des feuds avec les meilleurs de la LU. Il a toujours été en feud avec les meilleurs. Il a toujours été. C'est un main eventer, voilà.
Ouais.
Enfin, Pentagone, c'est un des cinq top main eventers de la Lucha Underground. Ce mec, c'est donc le frangin de Félix. Voilà, faut le savoir, faut le savoir. Ces messieurs, ils forment même une tag team dans les fédés mexicaines. Et voilà, la CMLL, Ils sont partout, ils sont partout, ces jeunes, partout. Évidemment, ils sont pistés par la WWE, mais pour l'instant, ils ont dit non. J'y croyais à ça. Alors, ce main event, moi, j'annonce la victoire de Pentagon Dark, mais voilà, je vais donner le pronostic, on va y aller, quoi, parce que Pentagon Dark, pardon, tout le monde le connaît. Et du coup, moi, mon prono, c'est, je pense que Pentagon Dark va gagner ce match et que le très, 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 très méchant Jack Strong va venir cacher. Voilà.
Et je pense aussi. Je pense aussi qu'il va y avoir un cash-in de Jack Strong. Mais moi, je le verrais plutôt sur Marty, en fait. Son cash-in sur Marty. Donc
Ah
Marty
ouais.
conserve la ceinture avec l'intervention de Reclusa. Reclusa, alors pour ceux qui voient à peu près à quoi elle ressemble, c'est Chelsea Green dans les Indépendants qui vient de signer à la WWE, qui va débuter à NXT dans 2 mois, 1 mois, enfin dans un temps relativement court. Donc, je vois bien, voilà, l'aide de Reclusa pour conserver le titre, mais il est exténué. Pentagone lui saute dessus pour le défoncer, se venger. Et Jack arrive avec sa ceinture et dit, voilà, je donne ma ceinture, mais je veux la tienne à la place. Allez, je te défonce et puis c'est bon.
Ouais, c'est vrai que ça peut être le prendre le pin pour éviter cette humiliation-là à Pentagone, mais parce qu'il y a un mais, si Pentagone remporte le match, une des grandes spécialités à la LU quand même, c'est que Antonio Cueto, il adore martyriser les faces, quoi. Il adore ce mec, c'est un sadomaso, quoi. Et donc il aime ça. Il fait donc un face qui remporte un truc, je sais pas si tu as remarqué à la Lucha Underground. Bah, direct, t'es dans la merde, quoi, parce que le patron, bah, il aime pas les faces. Et à chaque fois, il leur balance des matchs de la mort derrière, quoi, et ils se font éclater. Voilà, le top babyface, il se fait éclater. Et là, tout le monde pleure et tout le monde se plaint. Et moi, je comprends. À force de se plaindre, au bout d'un moment, ça devient la révolte.
Voilà.
Voilà, voilà ce qui est arrivé. Bah, le main event de Lucha Underground, c'est une révolte!
Ouais, on va voir ça. Moi, honnêtement, c'est un match que j'ai envie de voir parce que
Bye.
ça va envoyer du sang à grosse giclée. Faut
Moi, je retiens pas
être.
ça pour le sang à grosse giclée, personnellement. Deux très bons catcheurs. Enfin, Pentagone est vraiment un excellent catcheur in-ring. The Mod
Ouais.
est un bon catcheur. Et en plus, un gabarit pas simple, qui au départ, d'ailleurs, il ne plaisait pas trop, ce gars-là. Je ne savais pas trop comment le situer. Mais c'est un gars qui est excellent dans son personnage. Voilà, c'est un gars qui tient son personnage. Et dans tous les segments où il est hors ring, etc., il est crédible. Et ça, j'aime ça, quoi. Voilà. Et ça, en plus, sa folie avec sa frangine, avec tout ce qu'il y a autour de lui. Lui, voilà un personnage dans Lucha Underground qui est imprégné de mystique. Parce qu'il ne porte pas de masque. Parce que, en fait, il est imprégné d'une aura familiale qui le pousse à faire tous ses actes. Oh Dieu! Oh Dieu, ces actes qui sont. Monsieur. Et donc, du coup, ce personnage, il est vachement intéressant. Et il se retrouve face à un luchador masqué traditionnel, comme peut l'être Pentagone. Et Pentagone, lui, il est dans une autre mystique, quoi. Lui, il est. C'est pour moi, hein, c'est le top guy. C'est le number one, quoi, voilà, de la Fédé, quoi. Voilà. Il y avait, dans le top 5, j'avais mis Johnny Mundo, mais si je mets le top number one de la Fédé, c'est Pentagone Dark. Prince Puma, paix à son âme, pendant les 3 premières saisons, était le top guy de la.
Ouais, exactement, exactement. Eh ben écoute, sur ces belles paroles, on a fini notre review de la
On va
carte.
revenir
On
pour la
reviendra
review
pour donner notre avis sur ce qu'on a vu.
du
Et
4,
on espère que vous serez là pour
du
faire avec nous.
4, du 4.
Alors, ça va être l'heure de l'autopromo. Donc nous sommes sur YouTube, sur PodCloud, sur iTunes, sur Spotify.
Sur les cailles et les catch.
Sur Facebook, Ketchup CDC, sur Twitter et Instagram, @Ketchup CDC.
Ils sont partout.
On est partout, presque. Bientôt dans
Ils
vos écrans télé.
renormalisent. The
Je suis Bud Karma, avec moi, c'était Crix.
Yeah! Lucha!
À la
Lucha!
technique, et avec une petite intervention, c'était IRM. On le remercie encore une fois.
Yes!
Believers.
Vision!
On vous donne rendez-vous après Lucha Underground, Ultima Lucha. pour en faire la review avec vous. Et on vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch. Ciao, ciao.